C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas commun, surtout, j'ai envie de dire, dans des plus petites villes, des plus petites agglomérations où il y a moins de gens. Et du coup, pour la danse, ça veut dire moins de grandes écoles ou une généralisation du métier qui est moins grande. Et les personnes y connaissent moins de choses. Donc ça veut dire que ça fait de suite un peu plus tâche d'avoir un garçon qui fait de la danse. C'est beaucoup plus bizarre que d'avoir un garçon qui fait du foot, par exemple, ou un garçon qui fait du rugby, ou un garçon qui fait juste pas de sport. C'est vrai que ça a été pointé du doigt nombreuses fois, notamment dans mon parcours scolaire.
Genre le mec.
Mais c'est quoi son genre?
Genre, c'est un métier d'homme.
C'est pas trop son genre.
Non, mais fais pas genre.
Fais pas genre.
Machiniste est-il un métier d'homme ou de femme? Photographe, ingénieur du son, script ou danseur? Ces métiers nous questionnent sur la mixité dans les métiers du spectacle et de l'audiovisuel. À travers 20 portraits, Fais pas genre donne la parole à ces femmes et à ces hommes qui sont en minorité de genre dans leur métier.
Ça va le corps ce matin? Bien.
Bof. Franchement, ouais.
Hier, il nous a, tué. Ouais.
La répétition d'hier, ouais. Maintenant, ouais. Franchement, j'ai un peu mal partout.
Mais tranquille, hein. De toute façon, aujourd'hui, après, façon, on fait qu'un filage et on marque, c'est ça, elle a dit Marie-Laure.
Oui, je pense, tout normalement. C'est marquage sur scène, on prend les marques, on fait les tests lumière.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis avec Léo, un jeune danseur actuellement apprenti au CFA, au Centre de Formation d'Apprentis Danse, Chant et Comédie, qui est le seul et le premier en France dans les métiers du spectacle. Alors bonjour Léo.
Bonjour.
Est-ce que pour commencer, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Tu as 18 ans, tu es donc tout nouvellement apprenti. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es venu à être danseur?
J'ai commencé la danse très tôt. C'est arrivé un peu par hasard, en fait. J'étais, comme tout le monde, à la maternelle et une professeure a conseillé à mes parents de me mettre au sport pour des questions de psychomotricité et tout bêtement de concentration. Et elle leur a conseillé justement la danse qui me permettrait d'avoir vraiment une concentration et il y a cette rigueur dans la danse qui m'obligerait à me concentrer sur ce que je fais et pouvait m'aider en fait à l'école. Et du coup, je me suis mis à ça complètement par hasard. J'ai commencé par une sorte d'éveil corporel avec un peu de tout et de n'importe quoi. On faisait du classique, du jazz, du contemporain, de la danse africaine. Enfin, j'ai grandi dans un petit village et c'était vraiment une école de village avec une professeure qui venait de temps en temps. Et c'était très, très loisir, aucun stress. Voilà, cette professeure est ensuite partie de mon village et je me suis retrouvée sans école. Et en fait, ça avait commencé à me plaire. Et je me suis dit que, en fait, je voulais continuer. Et du coup, ce qui a commencé comme juste quelque chose qui devait m'aider est devenu quelque chose qui me plaisait. Et puis, plus tard, quand j'ai continué donc, dans une autre école privée dans la même ville, une passion plus tard et ce qui m'a poussé à poursuivre un long parcours jusqu'à arriver, enfin un long parcours, je n'ai que 18 ans, mais un parcours dans la danse que j'ai suivi tout au long de mes années scolaires aussi et qui m'a poussé l'année dernière à partir à l'étranger en Suède pour poursuivre cette formation de la danse et cette année pour auditionner et me retrouver ici au CFA à Paris.
Tu es nouvellement apprenti, comment on rentre dans un centre de formation d'apprenti comme celui-ci?
Donc j'ai dû passer une première fois l'année dernière en mai par une audition où je suis venu prendre une journée de cours complète ici à l'école au CFA. J'ai pu avoir un entretien avec la directrice pour savoir où est-ce que je me plaçais dans l'énorme spectre des niveaux de la danse, des catégories, des styles, mon niveau technique, ma performance artistique, voilà où est-ce que je me situais et qu'on décide ensemble de quelle formation me conviendrait le mieux au sein de ce CFA, qui est donc pluridisciplinaire. Il se trouve que j'ai été accepté dans ce CFA donc, pour suivre un enseignement technique et dans la perspective de devenir apprenti, donc de passer d'abord par un dispositif qui sera une POEC, donc qui est comme un gros stage, une grosse mise à l'essai de 2 mois et demi, pour ensuite signer un contrat d'apprenti. Et ensuite, voilà, pouvoir poursuivre avec tous les bénéfices de cet apprentissage qui seront notamment le GEMS, donc qui sont un groupe d'employeurs qui viennent chercher des danseurs au sein du CFA pour différents projets qui varient de tout à rien. Ça peut être de la télévision, un clip ou le Jeune Ballet Européen, qui est la jeune compagnie du CFA qui nous permet de nous produire sur scène. J'ai passé une deuxième audition qui s'est déroulée en juin, qui s'est déroulée au Pôle Emploi Spectacle et qui était en partenariat avec l'AFDAS. Selon comment on a été évalué la première fois, maintenant ils regardent par rapport à cette première mise à niveau. Et donc j'ai eu la chance, après cette deuxième audition, d'être de nouveau sélectionné dans toutes les disciplines et pour pouvoir poursuivre cette POEC au sein du CFA.
Alors, comment ça s'organise l'emploi du temps quand on est apprenti, entre le temps à l'école, le temps en apprentissage et le temps chez l'employeur ?
Ma journée commence à 8h30. Je commence par des cours techniques toute la matinée. Ensuite, j'ai une pause repas. Et ensuite, l'après-midi, je vais suivre des répétitions pour le Jeune Ballet Européen. Ou alors, si c'est un jour sans répétition, j'aurai accès à des cours d'autres disciplines, donc qui relèvent du chant, du théâtre, d'où le CFA danse, chant et comédie. Ou alors, il y a du hip-hop aussi qui est enseigné, où des fois, on a accès à des cours de cancan. Enfin, c'est vraiment une école où ça, par contre, c'est quelque chose de très bien, c'est qu'on a accès à un vaste choix de vraiment plein de disciplines qui nous permettent de, si on veut se spécialiser ou aller d'un côté ou de l'autre, ça nous permet vraiment de le faire. Une fois par semaine ou de temps en temps, des auditions viennent, donc des personnes du monde du spectacle viennent nous rechercher.
Alors, tu nous as expliqué un petit peu comment est née cette envie de devenir danseur, mais est-ce que tu as eu aussi des rôles modèles, des danseurs qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie, enfin qui ont contribué à te donner envie à exercer ce métier ?
Alors oui, comme tout le monde, je pense, j'ai eu des rôles modèles qui ont été plus simples au début que des grands danseurs étoiles. Au début, vraiment, moi, la danse, c'était comme un loisir et j'ai juste aimé ça pour un loisir avant que ça devienne une vraie passion et une envie de professionnalisation. Donc moi, mes rôles modèles, ça a été ma prof de danse, Mireille Marin, qui m'a enseigné tout ce que je sais. Mon deuxième prof de danse, Frédéric Carré, et puis d'autres élèves de l'école qui étaient là avant moi et qui étaient la génération du dessus, qui n'étaient pas les grands danseurs professionnels, mais qui m'ont fait rêver. Bon, je ne sais pas si je cite des gens, mais par exemple, Florette Jagère, c'était d'autres élèves de l'école qui sont maintenant danseurs, mais voilà, qui m'ont fait rêver pendant mon enfance. Et puis bien sûr, maintenant, des rôles modèles, je ne sais pas, c'est plus vraiment des danseurs, mais moi maintenant, c'est des chorégraphes, surtout. Je pense à William Forsythe, Jiri Kilian, Nacho Duato, Alexander Ekman, qui est vraiment... chorégraphe de rêve pour moi, donc c'est vraiment oui, des rôles modèles il y en a eu et je pense qu'il y en aura toujours jusqu'à la fin pour m'inspirer et me pousser au-delà de mes limites.
Qu'est-ce que ça représente la danse pour toi ?
Oh là là, quelle question compliquée. La danse pour moi, je pense que le mot le plus proche et précis pour moi de ce que ça me donne la danse, pour moi c'est vraiment un échappatoire. C'est vraiment une liberté, quelque chose qui m'a toujours permis de vraiment, quand je rentre dans cette salle de danse, de plus penser à rien et de me dire, voilà, j'ai que ça à penser, c'est la danse et rien d'autre. C'est un bonheur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ça a été tout pour moi. Ça m'a vraiment apporté tout ce que je sais, la rigueur, la discipline, de l'envie, de l'artistique, de la joie, du savoir-vivre. Du savoir-vivre en communauté, du savoir-vivre tout seul, de tout.
C'est difficile techniquement ? Est-ce que tu sens pour ton corps, parfois, c'est une difficulté, une contrainte ?
Oui, oui. Ça, par contre, c'est une question qui est beaucoup posée. Et c'est vrai que la danse, c'est très difficile. Ça demande une discipline extrême. Et c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être fait du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui doit être forgé lentement. C'est un art, c'est quelque chose de très précieux que chaque danseur a passé sa vie à perfectionner. Donc c'est vraiment pas quelque chose de ponctuel et c'est un travail qui est fait sur la longueur et qui est assez compliqué. Donc par exemple, je pense au classique, le corps n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est ce que tous les profs répètent au début. Le corps n'est pas fait pour ça, il faut le muscler d'une certaine manière, il faut l'étirer d'une certaine manière, il faut acquérir de la souplesse. C'est des mécanismes qui se mettent dans le corps, des chemins corporels, savoir où la tête elle va, où le bras il va. C'est vraiment jusqu'au bout de l'ongle, la maîtrise complète de son corps et la conscience complète de tout ce qu'on fait pour pouvoir l'utiliser pour que ça paraisse sans effort. Que ça paraisse le plus simple possible. Et voilà, on le compare souvent à un travail. Enfin, moi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours comparé. On m'a dit, voilà, la danse, physiquement, c'est pas forcément plus compliqué qu'un autre sport, ou c'est pas forcément plus douloureux ou physiquement important, la charge de travail à fournir. Mais la chose qui est extrêmement compliquée dans la danse et qui met des années à venir, c'est que cet effort physique, il doit être intégré dans le corps de manière à ce que personne ne puisse le voir et que ce soit le plus simple possible. Il faut que personne voie que j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois et des heures dans le studio à m'étirer, à me faire mal, à me tourner dans tous les sens pour que ça fasse l'effet que ça fasse.
Souffrir avec le sourire.
Exactement, exactement. C'est une souffrance qui est nécessaire et qui est... Oh, ça va paraître un peu sadique ou maso, mais qui au final, elle est presque plaisante de voir les résultats arriver. Ça enlève toute la souffrance, quoi. Voir vraiment ces petits centimètres de gagner sur une pointe de pied, ces petits centimètres de hauteur de jambe et ce tour en plus, c'est vraiment des toutes petites victoires, mais c'est vraiment quand on est passionné, ça désensibilise complètement et ça. Et ça, vraiment, ça permet d'être fier de soi et de pas du tout sentir le travail, en fait.
Est-ce qu'il y a un style de danse que tu préfères ?
Pareil, question compliquée. Un style de danse que je préfère ? Premièrement, je penserais au néoclassique. Donc, le néoclassique, c'est à la frontière entre le classique et le contemporain. C'est vraiment à la limite des deux. Donc ça va utiliser les formes du classique et toutes les positions qui sont élémentaires et ça va les transformer un petit peu pour pouvoir les libérer un petit peu de ce côté assez rigide que le classique peut avoir. Ça va les libérer un peu, je pense notamment au travail du haut du corps qui va être un peu plus libre que dans une pièce classique normale. Sinon, le classique forcément et le jazz. Je pense que néoclassique et jazz, ce seraient les deux premières auxquelles je pense... Et le compte, oh, j'en ai trop.
Alors, le sujet de cette exposition, c'est la mixité dans les métiers du spectacle et de l'audiovisuel. Il y a à peu près 63% de femmes dans la danse. Est-ce que toi, tu t'es posé la question de cette absence de mixité avant de te lancer ? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée au démarrage ?
Au démarrage, non. Au démarrage, c'est vrai que, comme j'ai expliqué plus tôt, c'était quelque chose de très innocent. Et très naïf, mon entrée dans la danse s'est fait par hasard, donc c'est vrai que je suis arrivé un peu jeté dans ce milieu sans vraiment y faire attention. J'ai peut-être la première fois que je me suis posé une question, en fait, une fois que j'avais fini ma première formation de danse et que j'ai voulu retrouver une école, on a cherché avec ma mère à m'inscrire quelque part et on est arrivé dans... Donc il y avait plus ou moins deux options dans la petite ville auquel j'habitais à côté d'Aix-en-Provence. Deux écoles qui s'offrent à moi, donc on va vers la première. Et en entrant dans la salle, ma mère se présente à l'accueil en disant « Bonjour, je voudrais inscrire mon fils pour suivre des cours de danse classique. » Et je me rappelle très bien de la réaction de la fille à l'accueil qui était surprise de voir un garçon, qui a vite appelé sa collègue en disant « Oh, un garçon qui veut s'inscrire pour faire de la danse classique, mon Dieu, c'est... » C'était pas négatif, c'est super, mais c'était waouh! D'un coup, beaucoup pour juste. Et en fait, je me rappelle que ça m'a un peu effrayé et que je me suis un peu blotti contre la jambe de ma mère en me disant oula, c'est beaucoup d'attention pour moi alors que je veux juste faire ça pas dans mon coin, mais je veux juste faire ça sans qu'on me pose des questions. Et en fait, quand je suis allé à la deuxième école, qui est. À mon sens, plus professionnel. C'est pas forcément une mauvaise chose que l'autre ne le soit pas, mais qui est plus professionnel. Je suis arrivé, même question à l'accueil. Et en fait, cette fois-ci, c'était le père de ma prof de classique à l'époque qui dirigeait l'accueil, qui m'a, qui m'a dit « Aucun problème, bien sûr, il peut venir faire un cours d'essai, il y a même un vestiaire pour les garçons. » Et c'est vrai que de le mettre, de l'approcher de cette manière, ça m'a mis de suite plus en confiance et je me suis senti mieux. Voilà, j'avais la question qui s'était posée juste avant, c'est un peu moins posée, même si elle restait présente, puisque on était trois garçons pour 55 filles, quoi. En grandissant, forcément, on commence à comprendre un peu plus des questions de mixité qui sont des questions un peu plus matures, des questions de genre qui se posent plus, je dirais, la période fin de l'école primaire, début du collège. Collège, bonne période. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas commun, surtout, j'ai envie de dire, dans des plus petites villes, des plus petites agglomérations où il y a moins de gens. Et du coup... pour la danse, ça veut dire moins de grandes écoles ou une généralisation du métier qui est moins grande et les personnes y connaissent moins de choses. Donc ça veut dire que ça fait de suite un peu plus tâche d'avoir un garçon qui fait de la danse. C'est beaucoup plus bizarre que d'avoir un garçon qui fait du foot, par exemple, ou un garçon qui fait du rugby, ou un garçon qui fait juste pas de sport. Mais ça fait de suite tâche, donc c'est vrai que ça a été pointé du doigt. Nombreuses fois, notamment dans mon parcours scolaire. Ça pouvait être généralement des camarades de classe ou qui ne comprenaient pas, puisque d'un coup, quand on est seul et qu'on a tous 10 ans et qu'il y en a un seul qui fait de la danse alors que tous les autres, ils font pas ça, ou ils font des sports qui sont qualifiés de plus masculins, ça fait de suite réagir. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas super à vivre, mais en même temps qui est compréhensible, qui est ce fait de différence qui est, bien sûr, va être pointé du doigt et c'est comme ça que ça fonctionne.
Quelle attitude tu as adoptée pour faire face à cette situation et ce sentiment un petit peu de différence qu'on t'a renvoyé ?
La meilleure attitude que j'ai trouvée qui a fonctionné pour moi, ça aurait pu être l'indifférence et vraiment... le laisser passer. Vraiment, j'ai pas voulu prendre part à cette négativité qui me bloquait, en fait, de me dire que je suis pas comme les autres. Et ça posait vraiment des questions sur est-ce que je devrais continuer, sur parce que cette volonté de poursuivre la danse était encore fragile et était pas certaine, puisque c'était que du loisir à cette époque-là. Et du coup, c'est vrai que ce regard de différent... Je me disais, si j'ai pas besoin de la danse et si j'ai pas envie de le faire plus tard, plutôt que d'être pointé du doigt toute la journée, ce serait mieux que je l'enlève et que j'aille faire, du tennis et personne ne me posera plus de questions et tout ira mieux dans ma vie. Mais c'est vrai que j'ai eu ces petits trucs pour la danse qui partaient pas et qui m'a poussé à continuer. Et ce qui a été essentiel pour moi aussi, c'est d'avoir des gens avec qui en parler et ce climat, la danse, qui était... super, je pourrais jamais les remercier assez de m'avoir mis en confiance et de m'avoir permis de me dire que si c'est ça que j'ai envie de faire, je le ferai et tant pis, puisque ça me procurait quelque chose. Cet échappatoire, encore une fois, qui m'enlevait toutes ces pensées. Je sortais de l'école, j'allais à la danse et puis c'est comme si la journée n'avait plus existé, quoi. C'est vraiment de la danse. Voilà, il y avait la danse et puis après, hop, revenu à ma vie normale, mais il y avait ce petit moment dans le studio, le soir, où plus rien n'existait à part la danse.
Ça a été quoi le déclic pour te dire que tu allais en faire une profession, que tu allais te lancer en tant que danseur ?
Très bonne question, très très bonne question. C'est assez compliqué. Le déclic, ça a été quand... j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir à être sur scène et j'ai commencé à vraiment sentir ce côté artistique et à vraiment me sentir à l'aise à montrer ce que j'avais façonné dans mon corps et je commence à être de plus en plus content du résultat. Après, ça se passe aussi au niveau de l'avancée dans les niveaux et je tenais la route dans les niveaux et ma prof m'en parlait. Oui, peut-être que ce serait une bonne idée d'envisager. Je pense que j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Vers 12-13 ans, j'ai développé cet intérêt et je me suis dit, on va commencer à poursuivre ça sérieusement. bien sûr sans aucune obligation, mais j'avais cette petite idée qui commençait à se forger au coin de la tête en se disant peut-être que ce serait bien de devenir un danseur.
Quel est ton regard, toi, sur cette absence de mixité? Comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de garçons?
Une des premières choses qui expliquerait ce phénomène, ce serait la différence que ça nous apporte. Et j'en reviens à ces moments, par exemple à l'école, où on va être un garçon dans une classe de 30, je sais pas, une quinzaine de garçons, on va être un garçon sur 15 à faire de la danse, et que tout le monde va nous pointer du doigt. Et ça peut être des périodes difficiles qui si on n'a pas vraiment cette volonté de devenir professionnel, ou cette volonté d'en vouloir plus dans cette discipline, va nous bloquer, et va pas nous faire abandonner, mais nous faire laisser ça de côté, en se disant, oh ben, je peux faire autre chose, et ça m'attirera moins de problèmes, entre guillemets. Je pense que ça, c'est un des plus gros facteurs.
Le regard des autres, donc.
Oui, le regard des autres. Même si je trouve qu'on évolue et que maintenant, c'est beaucoup moins présent, puisque je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de garçons dans la danse qu'avant. Mais je pense que le regard des autres, ça doit être la cause numéro un.
C'est quoi ton rêve de danseur?
Mon rêve de danseur, fut-il danser une pièce de Alexander Ekman, qui est chorégraphe suédois. Moins futile en général avoir un métier de danseur et être capable de danser dans une compagnie et faire que ce soit la raison pour laquelle je puisse vivre de manière stable.
Merci beaucoup Léo pour ton témoignage.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cet épisode. Pour retrouver l'intégralité des portraits en podcast, photo ou vidéo, rendez-vous sur notre site dédié.